Je vous rappelle cette règle concernant l'évangile du dimanche. Quand on ne sait pas comment le comprendre, on part de la première lecture que l'Église nous donne en vis-à-vis. L'évangile de ce dimanche n'est pas très compliqué, mais il mêle des sujets très différents. Du diable, du pardon, de la famille, sans qu'on sache exactement comment ils s'articulent. La première lecture nous en donne un éclairage très utile, un temps symbolique, où la famille n'était pas encore constituée, où Adam et Ève n'avaient pas encore d'enfants, et où surtout le pardon était absent. Lorsqu'il est pris en faute, l'homme ne s'excuse pas, il ne dit pas à Dieu « excuse-moi », il ne s'excuse pas, il accuse sa femme. Il accuse sa femme alors que c'est lui qui avait reçu l'ordre, plutôt l'interdit. Et c'est la raison pour laquelle cette faute s'appelle le péché d'Adam. Et le discours divin qui nous est donné ici se limite uniquement à la condamnation du diable, et même pas sa condamnation, sa damnation définitive, car le diable ne demande jamais pardon. C'est ça le péché contre l'esprit, tel que le pape Jean-Paul II l'a défini, d'ailleurs dans une exhortation qui s'appelle « Réconciliation et pénitence ». Le péché contre l'esprit, c'est le refus du pardon. Il y avait une maman à qui j'avais conseillé de faire elle-même le catéchisme de ses enfants, parce qu'ils étaient trop petits pour être inscrits au catéchisme de la paroisse, 4 et 5 ans, 4 et 6 ans. Et je lui disais d'ailleurs pour son bien à elle, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon de progresser que de chercher à transmettre sa foi. Alors quand on n'a pas d'enfant, on vient faire le catéchisme à la paroisse, même quand les enfants sont trop grands, ou de toute façon, dans tous les cas, à la paroisse, dans une autre paroisse, dans un collège. C'est la meilleure façon de progresser dans la foi, c'est de chercher à la transmettre. Mais cette femme avait pris justement comme exemple pour me convaincre qu'elle n'était pas capable. Pas capable. Il suffit d'avoir une leçon d'avance. Elle avait donc pris cet exemple et elle a dit « Ma fille m'a demandé si le diable peut être pardonné. » Est-ce que le diable peut être pardonné? Qu'est-ce qu'on répond? En théorie, oui, de la part de Dieu. Mais en réalité, non, car le diable refuse le pardon. Il refuse le pardon, tout ce qui vient de Dieu et surtout peut conduire à lui. Le diable est réellement méchant, au sens le plus fort, extrême, méchant. Il y a un petit livre délicieux, si vous ne le connaissez pas, je vous le conseille. Voilà une bonne lecture pour cet été. C'est désormais un classique de la littérature spirituelle qui s'appelle « Croire à l'amour ». Voilà un beau titre. « Croire à l'amour » du père Claude Delbé. C'était vraiment un petit livre qui peut vous accompagner cet été. Où il dit, le père Delbé dit que dans la vie, il y a beaucoup d'ignorants et très peu de méchants. Et je le crois volontiers. Beaucoup d'ignorants et très peu de méchants. Mais il y en a. Il y en a et ils risquent d'être damnés. C'est ce que dit le premier psaume du psautier. Ils sont comme la paille qui sera balayée par le vent. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas. C'est l'image de la résurrection. Ils ne se lèveront pas parce que le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. C'est un enseignement constant qu'il faut rappeler sans cesse de l'Église, depuis l'origine, depuis l'Écriture, sur l'existence du diable. Et le pape François a voulu le rappeler dans sa dernière lettre sur la sainteté, où il a consacré d'ailleurs la dernière partie, le cinquième chapitre, pour rappeler que ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une représentation, ce n'est pas un symbole, ce n'est pas une idée. C'est un être personnel qui nous harcèle. Le chapitre s'intitule « Combat, vigilance, discernement ». Car chaque fois, dit le pape, que nous baissons la garde, il en profite pour détruire notre vie, nos familles, nos communautés. Et c'est de cela dont il est question dans l'évangile de ce dimanche, que l'on pourrait intituler « Satan en famille ». Dans toutes les familles, le diviseur. Quand Jésus nous a enseigné le Notre Père, il a demandé que nous terminions en demandant au Père de nous délivrer du mal. Ce n'est pas le mal abstrait. La traduction plus précise, c'est le malin. L'adversaire, le diviseur. Jésus nous a enseigné à demander tous les jours cette délivrance pour que son pouvoir ne nous domine pas. Nous en avons été délivrés par le baptême, bien sûr, mais pour que la grâce du baptême soit à l'œuvre efficace, nous devons sans cesse y revenir, le demander tous les jours. Délivre-nous du malin.
Une jeune femme était venue me voir parce qu'elle était possédée. Elle habitait à côté d'ici, elle était venue davantage en voisine parce qu'elle était d'origine musulmane, même si elle avait pris des distances avec sa famille, parce qu'elle avait entrepris à la fin de son adolescence une quête qui était à la fois spirituelle, très belle, de recherche de la vérité, et puis, il faut le dire aussi, d'ascension sociale. Et elle était allée jusqu'à faire un pacte de sang avec le prince de ce monde, avec le diable. Et des années après, ce qu'elle vivait était atroce, atroce. Je ne savais pas si elle venait me voir pour en être délivrée, si elle avait besoin simplement d'en parler avec quelqu'un qui pouvait comprendre, ou si elle était un piège autant qu'une victime, parce qu'il faut bien le dire, elle était ravissante. Ravissante et, dans ses récits, d'une impudicité formidable. Souvent, ça nous arrive, nous, en confesseur, en confession, on dit « Non, rentre pas dans les détails, s'il vous plaît, un peu de... Non, c'est pas la peine, un peu de pudeur. » Mais là, il y avait dans ses récits un tel mélange de lubricité et d'innocence, je ne vais pas dire que c'était captivant, c'était fascinant. Mon ange gardien me secouait régulièrement. Il m'a surtout secoué qu'à un moment, elle m'a dit « Je suis peut-être une menace pour vous ?» J'ai répondu que l'Église, les sacrements du Christ sont une protection salutaire. Ce à quoi elle a rétorqué que dans les films, on voit les démons qui entrent dans les églises. Et elle a raison. Il n'y a pas que dans les films qu'on voit les démons qui rentrent dans l'Église. La première manifestation du diable dans l'Évangile, c'est quand Jésus va à la synagogue et que se manifeste ainsi un homme possédé d'un esprit impur. Et même au dernier repas, nous fêtions le Saint-Sacrement la fois dernière, vous savez, pour Judas, un des apôtres, quand il prit la bouchée, le diable entra en lui. Les sacrements de l'Église sont une protection vitale, nécessaire, indispensable, mais pas suffisante, sinon il n'y aurait pas tant d'horreur, y compris dans l'Église. Et il faut prendre au sérieux la parole que Jésus a adressée un jour à Pierre, le premier des apôtres, qui était tenté ou qui tentait de s'opposer à sa mission. « Passe derrière moi, Satan !» Benoît XVI, quand il a commenté ce passage, disait que ce contraste, ce combat se répète à travers les siècles. Quand la réalisation de la vie n'est orientée que vers le succès social, vers le bien-être physique ou économique, quand on ne raisonne plus selon Dieu, mais selon les hommes, selon le monde, voire selon le prince de ce monde. Et les armes que le Seigneur nous donne pour résister aux manœuvres du diable forment un ensemble que le pape François décrit, énumère d'ailleurs dans sa lettre. La foi qui s'exprime dans la prière, la méditation de la parole de Dieu, la célébration de la messe, l'adoration eucharistique, la réconciliation sacramentelle, les œuvres de charité, la vie communautaire et l'engagement missionnaire. Eh bien, les quatre premières, la prière, la messe, l'adoration et la confession, ont besoin des trois autres, à savoir l'action concrète, les œuvres de charité, la vie ensemble, la vie communautaire et l'engagement missionnaire. Inversement, celle-ci, et à commencer par la vie communautaire, c'est-à-dire au premier chef, la vie familiale. La vie familiale est le lieu de tous les dangers. S'il n'y a pas ce combat spirituel permanent et s'il n'y a pas la protection du Christ. Celui qui ne veut pas le reconnaître, dit le pape, se trouverait exposé à l'échec ou à la médiocrité. C'est un terme, médiocrité, qu'il emploie à plusieurs reprises dans sa lettre sur la sainteté, parce que c'est l'exact contraire de la sainteté. Qu'est-ce que c'est le contraire d'un saint? C'est celui qui se contente de peu, le médiocre. La médiocrité, c'est le plaisir du diable. C'est son domaine préféré. C'est là où il prolifère à foison. Vous savez, quand l'être humain se considère comme une créature à peine plus évoluée que les autres. Les écueils dans la vie vont par deux, ce sont les extrêmes. Bien sûr qu'il y a une mise en garde contre l'orgueil. Il y a une mise en garde contre l'orgueil qui court le danger de tomber dans l'excès inverse, celle du défaitisme, qui consiste à croire que la sainteté n'est pas pour nous, n'est pas pour soi, si. La fête du Saint-Sacrement que nous fêtions dimanche dernier, c'est celle du grand désir qui doit nous animer. Le progrès du bien, la maturation spirituelle, la croissance de l'amour sont les meilleurs contrepoids au mal. Personne ne résiste s'il reste au point mort. Personne ne résiste s'il se contente de peu. Si on cesse, quand on arrête de rêver de faire au Seigneur, de donner encore plus, un don plus généreux. C'est ce que nous devons demander comme grâce, de venir à la messe avec ce grand désir, ce sentiment qui nous fait dire, comme le Christ et avec le Christ, j'ai désiré d'un grand désir, célébrer avec toi cette Pâque, Seigneur. Dans son livre « Croire à l'amour », le père Claude Delbé dit « Les saints qui sont montés très haut dans le ciel, ils sont montés sur les ailes des grands désirs. » Sainte Marie-Madeleine de Pazzi a eu un jour la vision de la gloire de Saint-Louis de Gonzague et elle s'est étonnée « Comment ce petit jeune homme a-t-il pu monter si haut parmi les anges ?» Et il lui fut répondu qu'il avait atteint sa gloire parce que pendant sa courte vie, sa vie assez brève, il avait brûlé d'amour, brûlé du désir d'aimer Dieu et d'être un saint. Il avait ce désir immense et brûlant. Et le père Delbé dit, désirer aimer, c'est déjà aimer. Un grand désir d'aimer, c'est déjà un grand amour. Dans l'Église, comme en famille, voir Dieu, c'est voir grand.